À voix nue. Emmanuel Laurentin s'entretient avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernon. Aujourd'hui, cinquième et dernier volet, le temps des retours.
Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernon, nous nous retrouvons donc pour la dernière de ces cinq émissions de dialogue entre vous deux à l'occasion de vos anniversaires respectifs de 80 ans et de 90 ans. J'aurais peut-être trop insisté sur ces questions-là, mais c'est un peu le thème de cette dernière émission, puisque vous disiez, Jacques Le Goff, dans un de vos derniers ouvrages, être assez âgé pour voir les retours en matière d'histoire, les retours du politique, les retours du récit, les retours de l'événement, les retours de la biographie, toute discipline qui avait été, dit-on, mais vous serez sûrement beaucoup plus nuancé que cela à ce propos, qui avait été banni par l'école des annales, par l'école de la longue durée. Donc, j'aimerais que nous revenions sur sur ces 50 années de travaux de l'un et de l'autre, et sur justement les promesses que donnait cette école de l'après-guerre, cette école que vous avez décrite dans la première émission comme étant une école extrêmement libre, où d'une certaine façon les barrières disciplinaires avaient été levées, et sur aujourd'hui, ça sera le terme de notre discussion. Alors, je commence avec vous, Jacques Le Goff, assez âgé pour voir les retours. Et c'est vrai que dans ces 50 années, on a vu l'évolution, le passage de ce structuralisme dont on parlait dans les premières émissions à d'autres visions, par exemple, du politique, du récit ou de l'événement.
J'ai effectivement vu ce qu'il faut bien appeler, je crois, les retours. Ces retours s'expliquent peut-être tout simplement parce que les retours en arrière, les changements sont un peu une des lois, s'il en est, de l'histoire, s'expliquent aussi, il faut bien le dire, parce que dans ces combats, l'histoire nouvelle, disons celle des annales, avait accompli quelques excès. Il faut dire aussi que l'histoire, en tant que déroulement du temps et des faits des sociétés, a changé. L'histoire politique, qui est à mon avis le gros problème, ce qu'a dit Jean-Pierre Vernon, et je dirais son œuvre, prouve que cela pouvait très bien, au sein de l'histoire nouvelle, non seulement exister, mais avoir une place essentielle. Mais c'est que Jean-Pierre Vernon n'a pas été l'adepte de ce qu'étaient les historiens de l'histoire politique, disons universitaire, pour ne dire que ces personnes, mais que c'était tout ce qui touchait à une fonction dans la société, et donc c'est le politique, et non pas la politique qu'il a mis en valeur, qu'il a utilisé, dont il a montré l'importance qui est évidemment centrale. Et ça, nous les historiens des autres périodes, et en particulier du Moyen-Âge, nous avons eu beaucoup de mal à le réaliser, et je ne suis pas sûr que nous y soyons vraiment parvenus. C'est de faire l'histoire, si je peux dire, du politique au Moyen-Âge. Je ne dirais pas, ce serait vraiment indécent de ma part, que Jean-Pierre Vernon a été aidé par la nature même de l'histoire grecque. Mais il est certain que le terme politique est venu de la polis et que, en quelque sorte, un historien de la Grèce ancienne ne pouvait pas se détourner du politique, alors que les médiévistes ont été, je pense, déroutés, trompés par les notions de chrétienté en particulier. C'est une notion très fâcheuse, je m'empresse de le dire, parce que c'est une notion extrêmement artificielle et qui n'explique rien.
Jean-Pierre Vernon.
Écoutez, et Le Goff et moi, on a fait ce qu'on a pu, on a débrouillé les choses, fait avancer peut-être, modifier un peu le regard qu'on portait sur les terrains qui sont les nôtres. Et Il y a eu des changements, où il y a eu des manques. Il y a une qualité que je me reconnais. C'est que le groupe que j'avais fondé en 64, je crois, le Centre de Recherche Comparée sur les Sociétés Anciennes, Centre Gernet, qui est devenu maintenant quand même un centre important. Je n'ai jamais, je crois que je suis objectif, je n'ai jamais voulu imposer aux gens qui étaient venus au centre une façon de faire ou de voir comme moi. Et alors, heureusement, parce que il y a des points qui étaient pour moi des points aveugles, sans doute, par exemple les femmes. Les femmes, je me rappelle qu'un jour, Pauline Schmitt, à une réunion, m'a dit à peu près, écoute, JP, oui, toi, c'est très bien, mais les femmes, toi, ton regard est le regard d'un homme grec, et non pas, jamais tu ne te poses la question, et les femmes, comment elles voyaient ça? J'ai été absolument scandalisé de me voir accusé de machisme. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, et l'évidence de cette critique m'est apparue. Alors, il y en a qui ont fait ça beaucoup. Nicole Laureau a trouvé à un moment donné, sans doute, que Détienne et moi, on faisait trop des analyses structurales de mythes ou de la tragédie, et qu'on ne faisait pas assez de place aux politiques et aux luttes politiques et aux antagonismes. Je crois qu'elle avait raison. Et enfin, j'ai vu sortir, avec un grand bonheur, de ce centre, quelque chose qui est les images. Les images, la figuration.
François Frontizier, dont je m'étais pas occupé,
et où j'étais complètement béotien. Et les types qui sont là, Schnapp, Sarag, Françoise Frontizier, Durand, et beaucoup d'autres, ils ont vraiment mis au jour, je pense c'est pareil pour le Goff, avec ce problème-là, avec Jean-Claude Schmitt et tout ça, parce que c'est un monde, et qu'ils ont su innover dans ce domaine. On avait vu des innovations, on sait maintenant classer les vases, reconnaître les mains. Mais eux, c'est pas seulement ça qu'ils font. Ils font, sur les images, ce que j'avais tenté de faire sur les récits, sur les mythes, sur la tragédie, essayer d'y introduire de l'ordre. Alors, retour, et bon, je suis très content.
Alors, Jacques Le Goff, d'ailleurs, cette question des images est quelque chose qui vous passionne encore aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous posez la question vous-même en tant qu'historien de quelle place faire aux images dans ce Moyen-Âge qui vous a toujours obsédé.
Et comme Jean-Pierre Vernant, je dois dire qu'une de mes grandes joies, j'avais fondé quelque chose de beaucoup plus modeste qu'il ne l'a fait, qui était un centre d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, où je crois avoir aussi laissé leur entière liberté de pensée, de recherche à ses membres. Et c'est avec joie, j'emploie aussi le même terme, avec bonheur, j'ai vu le principal historien de ce centre, Jean-Claude Schmitt, se diriger vers une réflexion et une recherche sur les images. Et d'ailleurs, les historiens de la Grèce ancienne et les historiens du Moyen-Âge
se rejoignent
à cet égard, en particulier Jean-Claude Schmitt et
Sarag
ont fondé une collection Le temps des images chez Gallimard. Il y a là une rencontre que je crois très significative, très heureuse, et c'est une des nouveautés, parce que là, c'est pas du tout un retour. En particulier, cette notion d'image et les recherches et les publications qui en sortent sont une rupture avec non seulement la notion d'illustration, mais avec la notion d'iconographie.
Oui.
Là, c'est véritablement quelque chose de nouveau que nous voyons apparaître, et je suis évidemment extrêmement heureux que ce soient nos jeunes collègues qui, chacun dans son domaine, pour se rejoindre ensuite, l'ont développé.
Jean-Pierre Vernant, oui.
Oui, je dirais, là, par exemple, vient de paraître un livre que peut-être vous avez vu, de Françoise Frontizy-Ducroux, sur les problèmes des métamorphoses, l'homme cerf et la femme araignée, oui, parce que celle-ci, ça. Et on voit bien, alors, à quel point, quand tu mets ça en perspective, des séries d'images et liées à des mythes, tu comprends les plans multiples de signification que les peintres ont expérimenté à travers les vases. Et c'est ça qui est nouveau. C'est de prendre ces images, surtout pas comme des illustrations, mais comme un mode d'expression spécifique.
Absolument.
Et qui traite, qui n'est pas seulement documentaire pour te faire comprendre, mais qui traite de vrais problèmes.
Oui, il y a un autre point donc, que vous avez énuméré. Ça a été un des grands combats de Lucien Febvre, de Marc Bloch, puis de Fernand Braudel, que le combat contre l'histoire événementielle. Mais il faut dire que je crois que de ce combat, malgré tous les retours, il reste quelque chose de fondamental et qui a, si j'ose dire, tout changé.
Oui.
C'est qu'on sait maintenant que l'événement, il n'est pas créé par l'histoire.
Il ne surgit pas de rien.
Mais par l'historien. Ah oui. C'est l'historien qui fait, qui crée l'événement. D'autre part, en particulier avec les beaux travaux de Pierre Nora, nous savons qu'il y a un événement nouveau. C'est que les techniques de production des événements ont profondément changé depuis un demi-siècle au plus. C'est-à-dire qu'avec le journalisme, mais surtout avec la télévision, la production de l'événement est tout à fait nouvelle et il y a un événement nouveau pour lequel il faut de nouvelles façons de faire l'histoire. Quant à la biographie, là, je ne voudrais pas m'étendre, mais je dois vous dire que je me rebelle, et que je continue à me rebeller, contre la façon de traiter mes ouvrages sur Saint-Louis et sur François d'Assise de biographie. La chose est, pour Saint-Louis, ambiguë. Je ne le nie pas, et je dirais même que c'était un peu cette idée perverse qui est à l'origine de ce livre, dont j'ai voulu faire une sorte d'antibiographie. Mais ce qui m'intéressait dans Saint-Louis, c'est deux choses que j'ai essayé de faire. La première, c'est que j'étais toujours travaillé depuis ma jeunesse, des premiers pas dans le métier historique, par l'idée d'essayer, sinon de réaliser, du moins d'approcher une notion qui avait été essentielle pour Lucien Febvre et pour Marc Bloch, qui était la notion d'histoire totale ou d'histoire globale. Et c'était très difficile à réaliser. J'ai écrit il y a près de 30 ans, avec le grand médiéviste qui est Pierre Toubert, un article où nous indiquions que, sans doute, une des meilleures façons, une des plus possibles de faire de l'histoire globale, c'était de parler d'objets globalisants, c'est-à-dire de sujets d'une étude historique que l'on ne pouvait pas traiter sans parler de pratiquement tout ce qu'il y avait autour. Et il m'a paru que Saint-Louis, c'était un bon sujet globalisant. Ça s'est fait, ça. Mais je dois dire, dans les biographies traditionnelles, ça s'est fait d'une façon particulièrement maladroite et artificielle. On allait parler de l'Italie du XIIIe siècle quand on parlait de François d'Assise, sans le mettre en relation, vraiment, avec François d'Assise. J'ai essayé de montrer comment, pour expliquer, essayer d'éclairer Saint-Louis lui-même, il fallait parler de presque tout le XIIIe siècle. Et puis, il y avait un second objectif qui m'a autant intéressé, qui est le fameux problème des sources. L'historien, il dépend de ce document que l'on appelle des sources. Or, j'avais été frappé du fait que l'historien qui écrit des biographies, en général, ne disposait que de très peu de vraies sources. Que ce qu'il appelait sources, c'était des documents extrêmement fabriqués, etc. Et j'ai montré que pour Saint-Louis, Pendant longtemps, je me demandais d'ailleurs si je pourrais écrire ce livre, parce que je ne rencontrais jamais Saint-Louis. C'était des genres littéraires qui s'exerçaient sur Saint-Louis, puisque j'ai posé la question, évidemment, iconoclaste, Saint-Louis a-t-il existé ? Et il m'a semblé que si on pouvait penser s'approcher de Saint-Louis, c'est parce qu'il y avait un vrai document exceptionnel et qui était la vie de Saint-Louis Joinville. Alors, cette aussi façon de prendre un peu à revers, si j'ose dire, le problème des sources m'a intéressé. Quant alors à François d'Assise, c'est un ensemble d'études dont les trois quarts n'ont rien de biographique, et Mont-Saint-François d'Assise, c'est l'ensemble de ces textes. Ce n'est pas une énième vie de François d'Assise que j'ai proposée, parce que s'il m'a semblé que il n'en existait pas de vraiment satisfaisante de Saint-Louis, il y a de très bonnes vies de François d'Assise, nombreuses.
Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on a l'impression, Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant, qu'il y a eu une période extrêmement faste pour la médiatisation, la pénétration dans la société française de vos domaines de référence, qui étaient le Moyen-Âge et l'Antiquité. C'était cette période qu'on peut situer, grosso modo, autour de cet ouvrage que vous avez co-dirigé, Jacques Le Goff, qui s'appelait « Faire de l'histoire », 1974, avec de grandes émissions de télévision, avec une télévision qui s'intéressait à faire travailler et Fernand Braudel et Georges Duby, avec une volonté de vulgarisation, au plus grand sens du terme, de vos savoirs universitaires et de recherche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, vos deux périodes de référence, donc l'Antiquité et le Moyen-Âge, Jean-Pierre Vernant par exemple, ne sont pas un peu marginalisées par une demande de la société française ou des sociétés européennes en général, d'une histoire présente, d'une histoire d'aujourd'hui, d'une histoire du deuxième, XXe siècle, que d'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez bien, comme François Hartog, Jean-Pierre Vernant, a qualifié de présentisme.
Oui, le présentisme, c'est plus que ça. Oui, c'est le bien fait sûr que, pendant longtemps, le présent était éclairé par le passé, par les grands exemples, et qu'en même temps, il y a eu une période où le présent était vécu comme un horizon d'attente d'un futur qu'il portait en quelque sorte en lui. Et que maintenant, alors les grands exemples, bon, et le futur, on ne sait pas trop ce qui nous menace ou ce qui va arriver, et par conséquent, le présent se trouve pris sur lui-même avec le fait que les moyens d'information te rendre présent l'événement par des voies tout autres qu'autrefois, tu l'as souligné. Il n'y a pas un événement qui se passe aux Indes, massacre ou célébration, dont tu ne sois contemporain dans un présent qui d'ailleurs s'efface aussitôt, en même temps. C'est ça qu'il a voulu marquer. Alors la Grèce là-dedans, ben, c'est pas simple, parce que c'est contradictoire. Le monde dans lequel nous vivons a plus changé en un demi-siècle que en 500 ans. Ce monde que nous avons connu, même s'il y a une petite différence d'âge, dans notre enfance, et celui de nos petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, c'est un autre monde. Et par conséquent, ce qu'on raconte sur la Grèce, je dirais pas qu'il s'en fiche, mais il le voit pas de la même façon, certainement. Alors, il y a l'éloignement. Il y a le fait que les racines culturelles, que le temps que j'ai connu avant-guerre, où tous les enfants à peu près doués et normaux faisaient du latin et du grec, et qu'on mettait les nuls dans les classes C. Et maintenant, c'est l'inverse. Depuis 20 ans, si on a affaire à des types qui sont un peu débiles, on les met dans des sections littéraires. Tout ça,
c'était un peu exagéré.
Autrefois, un médecin, un homme politique, un avocat, il était imprégné de culture. On savait qu'on avait affaire à un bon médecin parce que dans sa façon de parler, dans ses modèles, le jeu explicatif, c'était la rhétorique classique gréco-latine qui était encore présente. C'est fini, ça ne reviendra pas. Et par conséquent, larmoyer sur le fait que c'est mort n'a pas de sens. Mais en même temps, l'intérêt se traduit de mille façons dans le théâtre. Depuis 25 ans, il y a eu plus de représentations des tragiques grecques par tous les metteurs en scène de théâtre que pendant un siècle et demi auparavant. Et si vous y allez, j'y étais parce qu'en général, il me demande de venir, il y a un public de jeunes qui est bouleversé par le spectacle. Par ce spectacle de la tragédie grecque. Ça les concerne. Tous ces points d'interrogation, tout ce mélange de terreur et de pitié, ça les touche. Il y a ça. D'autre part, vous ne pouvez pas empêcher que dans les dessins animés, dans les trucs, on reprend tout ça. Que ces personnages, ils intriguent. Je prends un exemple en m'excusant. Ce petit bouquin que j'ai fait, que je raconte à mon petit-fils, il s'est tiré à 100 000 exemplaires. Il est traduit dans 35 langues. Alors, c'est incroyable. Incroyable, c'est pas mon mérite. C'est le fait qu'il y avait, pourquoi ? Il y avait une attente. Tout le monde sait, Ulysse, Édipe, Freud, quand il crée une petite nouvelle, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne des références dans l'Antiquité classique. Les gens ont oublié ça. Mais ces noms évoquent quelque chose pour eux et ils savent pas exactement quoi. Alors ils ont envie qu'on leur raconte.
Ça veut dire que cette demande sociale qu'on accorde aux contemporains, à l'histoire contemporaine, les historiens de l'histoire contemporaine disent « nous répondons à une demande sociale », vous pensez que l'histoire grecque ou l'histoire médiévale y répondent d'une autre façon ?
Oui, mais je pense en effet que ça fait du bien de lire ces textes où la morale est différente, où la conception de l'homme est différente. C'est un autre, et c'est un autre qui, comme toujours, quand on l'a devant le nez, nous renseigne sur nous-mêmes, nous fabrique, précisément parce qu'il est différent, et dans sa différence, nous met nous-mêmes en question. Et ça, c'est bon.
Jacques Le Goff.
Moi, je ne serais pas aussi pessimiste que vous semblez nous y inviter. Il y a, au contraire, je crois, un certain intérêt pour le Moyen-Âge. Il est vrai qu'il y a, si j'ose dire, encore un grand travail à faire. Une grande partie de nos contemporains, ce que je trouve tout à fait triste, des personnages cultivés, des gens intelligents, continuent à voir le Moyen-Âge comme une période obscurantiste.
Alors, vous parlez du beau Moyen-Âge. Vous aimez parler du beau Moyen-Âge.
Je crois que tout ceci, c'est idiot. Il n'y a pas ni un Moyen-Âge simplement doré, ni un Moyen-Âge simplement noir. Toutes les époques historiques sont mêlées du point de vue des couleurs. Je crois que, aussi bien l'histoire ancienne, et en particulier l'histoire grecque, que l'histoire médiévale, s'il y a eu, et s'il y a encore à notre époque, un certain effacement, vont redevenir, disons ce mot à la mode, qui est un mot qu'il ne faut pas trop mépriser. Je me rappelle avoir entendu Roland Barthes bien dire comment la mode était quelque chose de positif, d'utile, etc. Et ceci en raison de ces rapports qui ne cesseront pas de très longtemps entre le présent et le passé. Pour comprendre le présent, on s'apercevra qu'on a au moins autant besoin de connaître la Grèce antique ou le Moyen-Âge qu'on a besoin de connaître l'histoire immédiate et peut-être plus. Vous avez parlé de retour. Moi, je crois qu'il va y avoir de beaux retours. Et en particulier, je pense que quand on s'occupera plus sérieusement que ne le font aujourd'hui les hommes politiques de la construction de l'Europe, que je considère comme le grand événement de notre présent, on s'apercevra que on ne peut pas construire l'Europe sans penser à ce qu'a été et à ce qu'a apporté la cité antique et le monde médiéval. Par conséquent, je suis assez optimiste. il va y avoir de beaux retours.
Merci Jacques Le Goff, merci Jean-Pierre Vernant de nous avoir accompagnés pendant ces 5 jours, donc dans ce dialogue autour de votre discipline commune, puisque nous avons quand même pu voir que et Jean-Pierre Vernant et Jacques Le Goff étaient des historiens, même si Jean-Pierre Vernant, vous avez commencé ces entretiens en disant « Je ne suis peut-être pas un historien, je ne mérite pas ce titre voilà. ». Et pourtant, tout le monde vous l'accorde. Merci encore à tous les deux.
C'était « À voix nue ». Emmanuel Laurentin s'entretenait avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Équipe de réalisation, Jean-Marie Charon, Pierrette Perronneau.